bienvenue sur l'empreinte digitale. J'ai le plaisir de vous proposer une interview cette semaine et on va parler ensemble du réseau social LinkedIn. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je suis surtout ravi de ne pas être seul cette fois-ci. Je suis accompagné donc avec Kevin Clément. Alors Kevin, en fait, il a répondu à, entre guillemets, l'appel d'offres de l'épisode de l'empreinte digitale numéro 100 où je vous invitais à venir échanger autour du micro avec moi pour une interview un petit peu spéciale d'un auditeur. Et puis j'ai reçu pas mal de propositions et j'ai trouvé le sujet de Kevin assez intéressant. Kevin, en fait, il a une histoire un petit peu atypique avec un réseau social qu'on utilise souvent hein, tous. C'est LinkedIn. LinkedIn, Kevin, il a fait un truc assez incroyable. Il est passé d'un statut LinkedIn assez lambda, on va dire, à un truc un peu de rockstar. Alors, il va nous expliquer tout ça, mais déjà, je vais être heureux de vous présenter Kevin. Alors, salut Kevin.
Salut Fabrice. Ben, merci pour l'introduction sur rockstar. Je ne sais pas si je suis une rockstar, mais en tout cas, je vais essayer de montrer, en fait, avec la connaissance que j'avais initialement, peut-être de base, comment effectivement j'ai pu augmenter en fait un peu plus ma visibilité sur LinkedIn. Mais merci pour le compliment.
Mais moi je te connais déjà un petit peu maintenant, donc je sais que tu es une rockstar, ce qu'on a déjà échangé. Tu vas nous raconter tout ça. Alors déjà Kevin, je vais te laisser te présenter toi-même, tu pourras nous parler de toi mieux que n'importe qui, donc je te laisse peut-être le faire. Dis-nous un petit peu qui tu es et ton parcours.
D'accord, eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Kevin Clément, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. J'ai 17 ans d'expérience dans le marketing, alors plutôt spécialisé en fait en B2B. Mon expérience s'est faite surtout sur une seule entreprise spécialisée dans les solutions de dématérialisation documentaire. Donc voilà, majoritairement en B2B au travers d'un réseau de revendeurs. Et après 17 ans, bah, j'ai quitté cette entreprise donc avec deux objectifs en tête. Donc un, c'était en fait passer un MBA pour approfondir mes connaissances en stratégie marketing et communication digitale. Après, bah, par la suite, je continuerai un petit peu la formation parce que je souhaite approfondir encore plus de choses sur le growth marketing et également la neuroscience appliquée au marketing. Et puis, en fait, en parallèle, le MBA me prend en fait peut-être un gros mi-temps. Donc, j'étais en fait sur ce mi-temps, l'autre mi-temps, me lancer à mon compte et proposer mes services majoritairement en fait aux PME, PMI. Et puis après, on en parlera un peu sur ma démarche en fait auprès de LinkedIn, parce que du coup, la visibilité que j'ai pu avoir auprès de LinkedIn m'a permis de décrocher en fait un contrat de partenariat avec une société d'anthropologues digitaux. Donc en fait, ces anthropologues digitaux, eux, ils étudient les réseaux sociaux pour le compte des entreprises, pour créer en fait un profilage des communautés, des tribus identifiées, et faire comme l'exercice que vous connaissez peut-être, qui est le persona, qui est d'identifier, on va dire, bah, le comportement type du coup d'une personne pour avoir une stratégie marketing en fait autour d'elle. Et ben, mais ça, ils font cette stratégie là en fait, mais corroborée par l'ensemble donc des comportements, des actions des abonnés sur les comptes sociaux. Donc voilà, j'en suis en fait à ce stade là aujourd'hui et je vais vous expliquer bah, comment j'ai pu effectivement en fait avoir une meilleure visibilité sur LinkedIn et puis décrocher par exemple ce contrat.
Ouais, super. Bah, écoute, on va rebondir après sur ce que tu as dit là. Tu nous as dit deux infos intéressantes, cette entreprise-là, pour les personnages. Je pense que ça va intéresser les auditeurs. Puis tu nous as parlé d'MBA aussi. On va peut-être faire une petite parenthèse à la fin parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui se posent la question de se dire est-ce que ce serait peut-être intéressant de suivre une formation, peut-être en parler après. Mmh. Alors, justement, on va aller dans le vif du sujet quand même. On va aborder LinkedIn au préalable. Donc, t'es passé de lambda à rockstar, comme je disais. En fait, pour donner quelques chiffres, Kevin, il avait un profil, il avait à peu près, comme la plupart, hein, à peu près 1000 abonnés, voilà, quand il publiait, il y avait une centaine de vues par poste, quelque chose d'assez classique. Et puis, il a changé son fusil d'épaule, il a changé son approche, et en 4 mois, il est passé de 1000 à 5000 abonnés, ça fait quand même 500% d'augmentation, et il est passé surtout de 100 vues à 200 000 vues par poste, il a fait des trucs qui ont ultra performé. Alors, nous, on attend qu'une chose, c'est la recette magique.
Alors, la recette magique, je sais pas si j'ai la recette magique, en tout cas, j'ai quelques clés, en fait, du coup, à peut-être donner pendant ce podcast. Et c'est des clés que j'ai découvert justement en fait en surfant sur LinkedIn et surtout en fait en m'abonnant donc à des interlocuteurs et à des pour moi c'est plutôt aussi des rockstars mais pour resituer un petit peu effectivement mon point de départ pour faire en sorte que du coup que les personnes on va dire qui nous écoutent s'assimilent en fait un petit peu à mon profil comme tu l'as dit effectivement j'avais 1000 abonnés sur un secteur d'activité du coup plutôt de niche que j'avais constitué en fait en 13 ans quelque part d'activité sur LinkedIn Et surtout sur ce secteur d'activité-là, ouais, de niche. Donc, il fallait connaître les gens, enfin, les codes qu'il y avait, on va dire, à l'époque sur LinkedIn, c'était, il fallait vraiment connaître les gens, rentrer en contact, en fait, avec les gens, avec eux, par mail, par physiquement, etc., pour pouvoir s'abonner, en fait, à eux, quelque part, et tisser, en fait, un réseau social. Et j'ai constaté, en fait, après, derrière, que, bah, les codes de LinkedIn, en fait, ont énormément changé. Et j'ai utilisé, du coup, ces codes-là pour démultiplier, du coup, ma visibilité. Donc ce que je faisais en fait avant, c'est que classiquement je repartageais uniquement les posts de mon entreprise. Il y avait 10 réactions, 200 vues, zéro commentaire. Et le pire, c'est que dans les réactions qu'il y avait, c'est-à-dire les likes, les partages ou autres, c'était toujours quasiment les mêmes personnes du coup qui le faisaient. Donc je restais en fait complètement en circuit fermé. Donc ça, peut-être que ça va parler en fait à certains de nos auditeurs. Et j'estimais en fait à l'époque, et ça remonte à l'époque, ça remonte à il y a un an, hein, j'estimais que pour faire de la prospection sur LinkedIn, il fallait surtout faire de la pub sponsorisée et qu'il n'y avait pas d'autre démarche pour bah, se connecter en fait aux gens et quelque part vendre la sauce qu'on avait à vendre. Donc une fois que je me suis retrouvé, on va dire peut-être livré à moi-même en fait à avoir de la visibilité, à défendre une visibilité sur LinkedIn, et ben j'ai décidé de créer un nouveau réseau pour avoir cette visibilité-là. Et ben voilà, je vais vous donner mon expérience propre du coup là-dedans. Donc ça s'articule autour de trois facteurs qui vont entrer en compte. Alors d'abord, j'ai beaucoup observé, j'ai appris les codes et ce qui marche ou ce qui marche moins bien. Et surtout, je me suis connecté et j'ai interagi avec les gens. Et c'est ça qui va vraiment m'aider en fait à performer par la suite. LinkedIn, c'est vraiment une plateforme de réseau social au sens noble du terme. Et donc en fait, il faut vraiment se connecter en fait aux gens pour pouvoir quelque part en fait en récolter les fruits. Donc par exemple pour l'anecdote, voilà, j'ai essayé de me connecter, on va dire, auprès donc des influenceurs de renom sur la plateforme de LinkedIn. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Caroline Mignot, voilà, bah, qui était pour moi à l'époque avec mes petits 1000 abonnés, elle avait 30 000 abonnés, c'était pour moi un peu la, j'ai envie de dire la Beyoncé de LinkedIn, c'était un peu pour moi l'intouchable. Je suivais toujours ses lives, etc., avec beaucoup d'appétit. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais quand même, vu que c'est performeuse sur LinkedIn, je vais quand même rentrer en contact avec elle et lui demander quelques conseils. Donc j'avais une stratégie en tête pour faire de la publication, et donc du coup je lui ai envoyé en fait un message, et elle m'a répondu en fait sur un message vocal. Voilà, le vocal, je savais même pas que ça existait en fait, en messagerie vocale sur LinkedIn, donc c'est pour vous dire mon niveau. Et elle m'a répondu que c'était top, etc., qu'elle m'a encouragé, elle m'a dit du coup d'y aller. Donc voilà. Donc n'hésitez pas en fait à vous connecter en fait aux gens, aux personnes qui vous paraissent en fait inatteignables, pardon, parce qu'elles sont très 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 accessibles et elles donnent de leur personne. Donc n'hésitez pas. Donc j'ai d'abord interagi avec voilà pas mal d'homologues également, donc de mon activité. J'ai liké, j'ai commenté, j'ai envoyé des messages. J'ai fait connaissance en fait en visio également, et ça à peu près, le fait d'interagir avec les gens, on peut y consacrer 30 minutes, 1 heure par jour. Et l'idée, c'était qu'on commence en fait à voir ma tête quelque part sur différents postes, etc. Et c'est ça qui va quelque part, bah, ils vont me le rendre en fait quelque part après quand je vais commencer à publier. Et donc là, après, déjà, il y avait le deuxième facteur, bah, c'était bah, publier, c'est-à-dire me rendre plus visible et montrer bah, ce que j'avais à proposer. Et ce que j'ai à proposer, c'est quelque chose, faut pas le montrer juste à proposer pour vendre quelque chose, faut montrer une certaine valeur, du coup, à donner, en fait, à une audience cible. Donc, je me suis posé quelques questions plutôt simples pour mes publications. C'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter et à qui? Donc, ça, c'est important. Même si c'est le à qui, en fait, du coup, ça va peut-être constituer vos clients futurs. Et c'est d'abord, en fait, de se concentrer sur ce que vous avez, en fait, envie de raconter. Donc moi, ma cible en fait privilégiée, c'était des décideurs de PME, PMI. Il fallait que j'aie une certaine crédibilité. Donc j'avais décidé d'augmenter ma visibilité, ma notoriété, ma crédibilité. Et il fallait que j'expose un peu mon savoir-faire. Donc je voulais augmenter mon nombre d'abonnés, parce que si j'avais 1000 abonnés et puis j'avais pas de publication, on va dire, qui marquait quelque part, on va dire, mon expérience, je me sentais pas forcément crédible d'aller frapper aux portes des décideurs de PME, PMI. Et donc j'ai essayé donc de donner un maximum de valeur du coup dans mes posts. Et j'avais une stratégie donc de communication qui était, j'avais un angle qui était pris pour peut-être avoir une profondeur ou du coup des angles un petit peu différents dans les communications marketing, en tout cas dans les thématiques marketing que je souhaitais poster. Par exemple, je faisais pas mal donc de carrousel, où je mettais en fait en avant, par exemple, le mix marketing des 4P versus les 10P pour donner, on va dire, un peu plus de visibilité sur d'autres concepts marketing. Il y avait d'autres thématiques comme par exemple bah, comment éliminer la concurrence avec une simple stratégie, celle de l'océan bleu, ou par exemple le persona est-il mort, pour être un petit peu provocateur et montrer qu'il y a d'autres choses en fait que l'on peut faire en fait au-delà de la méthode ou du persona malgré tout. Et donc ça, j'avais toujours en fait un angle où j'essayais donc de mettre de l'humour dedans en mettant des personnages, on va dire, de la culture populaire pour essayer de faire rire en même temps et faire passer en fait encore mieux les messages que d'avoir quelque chose qui peut être qui pourrait paraître peut-être un peu professoral. Donc, d'ajouter de la valeur en fait avec une touche d'humour. Donc ça, c'était un petit peu mon objectif pour là. Et c'est ça qui a plu. C'est ce qui a plu. Donc c'est cette originalité-là qui a plu. Donc faut être en même temps un petit peu original, un petit peu décalé et en apportant du coup de la valeur et d'essayer de créer un petit peu d'effet waouh. Et c'est ce qui m'a permis effectivement donc de passer à des posts. Le maximum que j'ai fait, c'est jusqu'à 200 000 vues. 1 600 interactions, c'est-à-dire des likes, des bravos, etc. Et puis jusqu'à 700 commentaires. Et donc avoir un maximum de visibilité, de la crédibilité un petit peu sur la thématique qui m'apportait. Et de recruter un certain nombre d'abonnés, puisque par exemple, un post m'a amené 800 abonnés, par exemple. Parce qu'ils souhaitaient du coup en savoir plus sur mes prochains posts.
C'est le même poste qui avait super formé ou t'as fait 800 abonnés dans la foulée ou c'est un autre?
Non, c'en est un autre, c'en est un autre. Le post qui a performé sur les 200 000 vues, c'était les 4P versus les 10P. Et celui qui m'a donné, on va dire, 800 abonnés, c'était celui qui disait, le persona est-il mort? Et donc voilà, ça m'a permis d'avoir la visibilité et de la notoriété. Et puis il y avait un troisième facteur qui m'a permis de passer de 1 000 en fait à 5 000 abonnés. C'est surtout aussi c'est d'automatiser les différentes tâches répétitives malgré tout sans déshumaniser la relation. C'est-à-dire que j'ai en voulant augmenter mon nombre d'abonnés, j'ai utilisé en fait un outil d'automatisation que vous trouverez sur Internet. Il y en a pas mal qui existent, qui m'a permis d'envoyer automatiquement donc des demandes d'amis, hein, des demandes d'abonnés sur des profils que j'avais sélectionnés et qui m'a permis en fait quelque part d'avoir un point d'accroche sur les profils que j'ai sélectionnés. C'est-à-dire par exemple, j'ai fait des demandes auprès des personnes qui ont commenté, qui ont liké mes posts, mais également sur des personnes qui ont liké et commenté des posts sur d'autres posts en fait que les miens qui étaient dans les mêmes thématiques que moi. Ou alors des personnes qui ont assisté au même live, au même webinaire que moi, ou des anciens étudiants de l'école que je suis en fait actuellement, par exemple, pour créer mon propre réseau, et puis voilà, des professions équivalentes que moi en fait en local. Donc créer en fait un petit peu un point d'accroche, mais au lieu de faire des copier-coller pour faire des demandes, ben voilà, j'ai utilisé en fait un outil d'automatisation qui le faisait pour moi. Et ça a vraiment boosté effectivement et m'a permis de passer de 1 000 à 5 000 abonnés.
C'est quel outil tu as utilisé toi, Kevin?
Alors moi, c'est Wallaxi que j'ai utilisé, qui est plutôt
Alexis.
bien fait, très très ergonomique, plutôt bon marché, on va dire, par rapport, on va dire, aux autres. C'est plutôt bien pour démarrer. Il y a d'autres outils beaucoup plus performants qui font encore beaucoup plus de choses, mais pour démarrer, c'est très très bien.
Les fonctions de base, c'est quoi, par exemple?
Alors, c'est les demandes de voix en fait automatiques. On peut se créer des scénarios pour faire des demandes, après derrière faire des messages pour remercier la personne du coup d'avoir accepté. Et si après derrière on a quelque chose en fait à raconter ou on veut pousser on va dire quelque chose, et ben en fait on peut avoir en fait un autre message ou plusieurs messages en fait à la suite pour bah, promouvoir ce qu'on a à promouvoir ou en tout cas ou apporter de la valeur là où on souhaite apporter de la valeur. Donc voilà, on peut faire des séquences un petit peu comme ça très facilement.
Si on résume un petit peu ce que nous dit Kevin, donc il a appliqué une vieille règle en fait, une vieille règle du commerce, mais qui est toujours efficace aujourd'hui, hein, ce qui se voit se vend. Donc la première partie qu'il a travaillée, donc c'est sa visibilité, le fait d'être vu. Hein, il voulait qu'on voit sa tête, il voulait être connu, qu'on commence à s'habituer à le repérer. Voilà, c'est ce qu'il a appelé donc la visibilité dans un premier temps. Alors pour ça, il a appliqué donc technique de communication un petit peu différente, plutôt que de faire ce qu'on fait, aller très très, très souvent, voire trop trop souvent, c'est on repartage un contenu, puis on est un peu comme dans un restaurant, hein, on va en cuisine, on est serveur, on va chercher le plat, puis on l'amène au client, quoi. Bah, Kevin, il a fait un truc différent entre le moment où il va en cuisine et la table du client. Il a fait comme dans le film Ratatouille, il a rajouté un petit peu sa secret sauce, là, son petit ingrédient secret à lui. Il a refait le plat, il l'a apporté au client à table. Du coup, tous les clients du resto n'ont pas eu le même plat identique. Les clients de Kevin, ils ont eu le plat de Kevin, quoi. Et du coup, ça change tout parce que on n'a pas la même assiette que les autres, quoi. Et du coup, bah, l'effet, tu l'as vu, c'était l'effet waouh, quoi.
C'est ça, et exactement. Après, moi, c'est ma expérience personnelle, mais chacun peut avoir sa cuisine, chacun peut avoir les saveurs en fait à amener, du coup, qui peuvent en fait avoir les mêmes succès, même beaucoup mieux. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et du coup, l'algorithme LinkedIn, on va en parler, en fait, dire bah, faire la pro, la va promouvoir tout ça, parce que il met en fait en avant les publications qui sont dans les thématiques du coup des gens, ce que recherchent les gens du coup sur la plateforme. Donc ça qui est intéressant. Donc chacun sa cuisine et chacun pourra trouver quelque part sa place. Et là je parlais beaucoup en fait en termes de volume, mais quand je disais bah, ça ne pas déshumaniser la relation, c'est qu'également faut engager après derrière, faut engager, faut envoyer des messages pour faire connaissance. Et grâce à ça, je fais en fait à peu près 6 à 7 visios, du coup pour faire connaissance par semaine ou dans le cadre de l'activité de partenariat que j'ai avec la société d'anthropologues digitaux. Et voilà, c'est ça qui finalement en fait après derrière amène quelque part donc de l'engagement. Donc pas raisonner uniquement que par volume et par visibilité. On n'est pas là pour être qu'un média, on est là pour vraiment interagir avec les gens. Et c'est là où on fait plus du sur-mesure et c'est ce qui est intéressant.
Ouais, parce que effectivement LinkedIn, hein, alors c'est comme tous les autres réseaux sociaux, hein, si on les utilise juste pour être vu, très sympa, mais bon, ça a aucun intérêt, quoi. Nous, on est tous là quand même pour vendre quelque chose, hein. Même les influenceurs, ils veulent des vues, mais c'est parce que derrière, plus il y a de vues, plus il y a de pouvoir publicitaire, on va dire, plus il y a d'audience, et plus pour eux, ils engagent derrière et pour avoir des gros contrats. Donc de toute façon, on est tous sur les réseaux sociaux à titre professionnel pour vendre quelque chose. Sinon, ça s'appelle un Instagram privé, un Facebook privé, on met des photos de vacances et ça, c'est très bien. Mais effectivement, toi, LinkedIn, tu l'as utilisé, Kevin, pour ton réseau, hein, pour ton travail. Alors, je pense que c'est, on a tous un petit peu compréhension de cela, mais pour toi, c'est quoi l'intérêt d'utiliser LinkedIn pour faire décoller un business? Pourquoi ça peut être
Alors,
intéressant d'utiliser, d'actionner ce levier-là, qu'on soit en début de projet ou qu'on soit déjà bien installé, qu'on soit freelance par exemple, qu'on se lance. Il y en a beaucoup, hein, qui ont quitté leur job ces derniers mois pour s'installer en freelance par exemple, ou ça peut être une entreprise classique qui est déjà bien installée. Ce serait quoi pour toi l'intérêt de LinkedIn pour faire décoller ces affaires?
Alors, l'intérêt LinkedIn, en fait, bah, c'est clair et voilà, je pense que tout le monde le sait, mais c'est la plus grande base de données mondiale de contacts professionnels qui est toujours à jour. Voilà, chacun, en fait, met toujours à jour son profil, c'est indéniable. En fait, en France, sur 29 millions d'actifs en France, il y en a 24 millions qui sont sur LinkedIn. Donc, c'est 82% donc des actifs qui sont sur LinkedIn en France. En B2B, bah, c'est quelque part, c'est the place to be. Hein, en fait, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas développer aujourd'hui, je pense, d'activité professionnelle si vous n'êtes pas sur LinkedIn. C'est juste un impondérable. C'est une obligation, hein, j'ai envie de dire. Et en B2B, mais également, en fait, voilà, il y a aussi un peu un angle, en fait, de B2C, parce qu'il y a quand même malgré tout des décideurs qui sont présents, sur cette plateforme-là. Donc, s'il y a des entreprises qui sont majoritairement, qui peuvent, en fait, avoir, en fait, en cible des décideurs, mais qui sont, en fait, en B2C, elles peuvent, malgré tout, en fait, du coup, faire des choses sur cette plateforme-là. C'est pas que réservé en B2B. Et que par exemple, j'ai relevé quelques statistiques en fait que Kinsta disait sur leur site internet, c'est par exemple que LinkedIn génère jusqu'à bah, 46% du trafic social donc vers des sites B2B, et donc c'est considéré comme la source de contenu la plus crédible. Il y a 85% des décideurs en B2B français mais qui le considèrent comme le meilleur réseau pour leur activité pro, et 46% d'entre eux ont déjà acheté suite à un contenu LinkedIn. Donc voilà, donc c'est quand même the place to be. Et autre chose, parce que là on parle donc de volume, mais c'est aussi une place où les prises de contact et les interactions sont quelque part, je trouve, les mieux reçues par rapport à des prospections qu'on pourra faire par email, par téléphone, à condition d'avoir une certaine pertinence, d'avoir en fait un ciblage assez fin et d'avoir une approche pour laquelle en fait on va essayer donc de donner de la valeur avant de vendre quoi que ce soit. On donne d'abord avant de recevoir. Et ça, c'est un peu le fer de lance que vous entendrez toujours un peu sur LinkedIn. Faut d'abord vous montrer, d'abord donner un petit peu de vous, pour que les gens, en fait, aient confiance en vous, en votre niveau d'expertise. Et une fois que cette confiance est instaurée, naturellement, les gens vont vous demander, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et vous allez pouvoir proposer, dire, voilà, votre expertise. Donc voilà, tous les freelanceurs, en fait, c'est vraiment the place to be. Pas que, même également pour ceux qui sont pas freelanceurs, ceux qui sont en fait aujourd'hui en entreprise. Vous n'êtes pas que le porte-parole quelque part de votre entreprise, vous êtes aussi le porte-parole pour vous-même. Et c'est ça qui est important aussi sur LinkedIn. Pour finir sur cette partie-là, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a seulement 1% des utilisateurs mensuels de LinkedIn qui créent du contenu. Donc c'est extrêmement peu. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de créateurs parce qu'il y a beaucoup de le fil d'actualité est très riche, mais c'est seulement 1% des utilisateurs. Donc il y a de la place, il y a de la place pour créer, il y a de la place pour porter votre voix. Comme je dis, LinkedIn en fait cible du coup vos contenus et le met en fait à disposition de ceux qui sont intéressés par rapport à votre thématique, à votre expertise. Donc n'hésitez pas en fait à y aller. Voilà, il y a 99% en fait de gens qui ne publient pas sur LinkedIn. Donc c'est aujourd'hui un véritable Eldorado. Il y a de la place pour tout le monde. Et pas uniquement que pour aujourd'hui les gros players que vous pouvez voir, le petit comme moi, qui pourtant en fait avait 1000 abonnés, a réussi en fait à faire 200 000 vues. Donc ça veut dire que le reach a été bien au-delà de mes 1000 abonnés initiales. Donc vous pouvez faire le buzz même si vous commencez petit, il n'y a pas de problème.
Le give to get, hein, ce qu'on appelle le give to get, donc donner avant d'avoir quelque chose, hein, soyez généreux, c'est pas plutôt généreux, soyez vraiment généreux. C'est la confiance, l'idée c'est de générer de la confiance, c'est ce qu'a rappelé Kevin. C'est la base de toute relation, hein, notamment commerciale, mais c'est valable pour les rapports humains aussi, hein. Tant qu'il n'y a pas la confiance, on peut pas avoir une vraie relation avec une personne. Et dans les affaires, c'est vraiment aussi, bien entendu, identique, hein. Vous pouvez pas convaincre quelqu'un avant de lui donner confiance. Et ça doit passer par donc cette phase un peu de give avant d'avoir le get. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes qui vous font des webinaires gratuits, des formations gratuites. C'est parce qu'après, une fois que vous avez suivi la formation, le webinaire et que si vous avez eu confiance dans la personne, vous êtes prêt à engager une relation un petit peu plus approfondie avec du payant. Mais donc, soyez généreux, donnez de la valeur ajoutée dans vos posts, c'est ce que nous dit Kevin, hein. Tu nous l'as rappelé, hein, 1% seulement des utilisateurs créent du contenu, hein. Et justement, c'est ce que LinkedIn recherche, justement, c'est pour ça que ces posts-là, ils sont bien viraux, c'est parce que LinkedIn, il attend que ça, il attend simplement que ses utilisateurs, ils créent du contenu, parce que plus ils en créent, plus la valeur ajoutée sur la plateforme, plus les gens vont venir sur la plateforme, plus ils vont passer du temps sur la plateforme, et le business model des réseaux sociaux, c'est le temps passé sur la plateforme, parce que derrière, c'est du temps cérébral disponible, et c'est de la publicité à vendre, quoi. Donc, soyez généreux. Partagez, ne faites pas simplement du partage d'articles, rajoutez, hein, comme on disait tout à l'heure, l'image entre la cuisine et la table du client, rajoutez votre truc à vous, faites que les plats soient différents des autres. Il y a seulement 1% des utilisateurs de LinkedIn, hein, qui créent du contenu, hein, à valeur ajoutée. Donc, et pour Kevin, ça a plutôt bien marché.
Oui, je confirme.
Pour Kevin, ça a plutôt bien marché. Là pour cet épisode, il fait à peu près une vingtaine de minutes, comme l'interview totale fait à peu près 45 minutes, je la découpe en deux fois. Donc voilà, c'était la première partie de cette interview, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, et je vous publie l'épisode d'après juste dans la foulée. On continuera à échanger avec Kevin sur sa stratégie, celle qu'il a mise en place et qui lui a permis donc de faire décoller son profil et la portée de ses publications sur ce réseau social. Allez, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut à tous.